Marciano, j'ai accepté de présider, le mot est bien grand, dans le cadre du séminaire sur Israël et l'universel humain, cette séance de ce soir consacrée au bonheur humain et messianisme juif. Je ne sais quels motifs ont guidé le choix des organisateurs de ce séminaire pour confier à un historien doublé d'un juriste ou un juriste doublé d'un historien, ce qui revient au même, cette responsabilité d'un débat hautement philosophique sur un sujet auquel, autant l'avouer tout de suite, il ne connaît à peu près rien. Sans doute aurais-je été mieux qualifié pour intervenir, par exemple, dans une confrontation de l'universalisme juif avec celui de la cosmopolis stoïcienne, ou avec celui de l'Empire romain, ou encore dans une discussion sur les incidences historiques, au demeurant désastreuses, des attentes messianiques face à ce même empire romain dans l'Antiquité qui est mon domaine. Mais je n'en suis pas moins heureux d'ouvrir la séance de ce soir, car cela me donne l'occasion de retrouver mon collègue ami, le professeur Robert Misrahi, un de nos plus éminents philosophes contemporains, et je dois l'ajouter ici. Il y a 4 ans, Robert Misrahi et moi-même, nous avons pris l'initiative des démarches qui ont abouti à la mise en place du DUEJ, diplôme d'études universitaires sur le judaïsme. C'est quand même notre enfant commun. Je suis d'autant plus heureux de revoir maintenant Robert Misrahi au Centre Rachid, le Centre Rachid qui est aussi fier du DUEJ que l'est l'Université de Paris 1 dont nous relevons tous les deux. Et puis je suis heureux parce que le thème du bonheur me paraît particulièrement important dans cette période d'angoisse et de souffrance que nous vivons. Et je brûle d'impatience, comme vous tous, pour apprendre comment accéder au bonheur dans l'attente de Yemei HaMashiach. Nous allons le voir. Un président, pour être efficace, doit être bref, j'ai terminé, et puis il doit être objectif. Mon ignorance sera, je l'espère, la meilleure garantie de mon objectivité. Et c'est dans cet esprit que je vais donner tout de suite la parole à Robert Misrahi. Mais j'ai encore une annonce à vous faire. Les cours du matin se poursuivront demain, vendredi 19 février, comme prévu, et puis exceptionnellement encore lundi et mardi prochain. Cher ami, vous avez la parole.
Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire ma joie d'être ici. Je ne vais pas faire beaucoup de phrases, d'être ici parmi des amis. Cette phrase banale, vous devez lui donner tout son sens en sachant que, non seulement aujourd'hui, mais depuis de longs siècles, c'est pas, pour un juif, disons, c'est pas évident, vous comprenez, dans une société. Je dis donc, en lui donnant le plus de poids possible, je suis heureux d'être ici, au milieu de mes amis. Je remercie Eskenazi d'avoir songé à ce que nous travaillions ensemble ce soir, le professeur Mélèze d'avoir accepté de présider. Et je vais maintenant entrer dans le vif du sujet, en faisant remarquer auparavant que j'ai le sentiment d'être en présence de personnes, vous-même, exigeantes, de personnes exigeantes et de personnes qui averties. Par conséquent, ce que je vais faire ne va pas être une conférence. Je vais essayer, d'être digne de ce que vous attendez de nous tous, et je vais essayer d'entrer dans le détail. C'est pourquoi d'abord, je vais vous demander votre patience, votre indulgence et votre patience à l'écoute de ce que je vais dire. Votre patience de façon à ce que vous ne pensiez pas que tel ou tel de mes propos de début sont des propos d'inspiration négative. L'inspiration de tous mes propos est positive, je veux dire. Je veux affirmer ici, quel que soit l'objet du thème que nous étudions, nous aurions parlé d'autre chose, j'en aurais été aussi heureux, je veux affirmer ici ma solidarité pleine et entière avec nous, quoi, la solidarité avec nous. Ça a l'air là aussi d'être une évidence dans notre monde aujourd'hui en France, c'est pas évident, comme on dit encore. Je demande votre patience, de façon à ce que vous ne mésentendiez pas le début de mes analyses. D'autre part, je vais vous demander votre indulgence pour les références que je vais faire maintenant à mes travaux. Je les fais en 30 secondes et puis j'en termine avec cela, car seuls nos travaux, à nous tous, aux uns et aux autres, nous autorisent à vous prendre votre temps, à venir vous parler et vous prendre votre temps. Chacun sait que j'ai beaucoup étudié Spinoza et que je continuerai d'étudier Spinoza. Et je pense qu'il est bon que vous sachiez qu'à l'occasion de ce thème, il est bon que vous sachiez que je viens de publier, enfin depuis les années 81, en 3 tomes, un traité du bonheur. Un traité du bonheur dont le premier tome est poétique, construction d'un château au seuil. Le deuxième tome est théorico-philosophique, conceptuel. Éthique, politique et bonheur, au seuil. Le troisième ouvrage, qui ne fait pas partie, qui n'est pas le troisième tome, mais qui est tout de même la suite, publié aux presses, qui peut être plus lu à la fois par des philosophes, des poètes et des gens qui ne sont ni philosophes ni poètes, c'est-à-dire nous tous, les actes de la joie. Au fond, je vais vous parler aujourd'hui de la joie. Notre thème, c'est, en somme, nous et la joie. Ou la joie et nous. Je ne voudrais pas, naturellement, dans tous les propos du début, je ne voudrais pas non plus paraître comme quelqu'un qui voudrait se substituer à. Je ne veux me substituer à personne. La communauté juive existe avec ses doctrines, ses vues, ses doctrines, ses perspectives, ses structures, ses ambitions, son avenir, et c'est à elle de décider de ce qui doit la nourrir ou non. Donc je ne veux me substituer à personne. Il peut se faire que ce que j'ai à dire, il serait souhaitable simplement que ce que j'ai à dire s'ajoute. Ça n'a pas à se substituer, ça a à s'ajouter. Mais si, d'autre part, tels ou tels parmi vous, comme au temps de Maïmonide, se sentaient un peu perplexes, se sentaient un peu égarés, tel ou tel, rare dans la communauté, alors je pense là que vraiment, je pourrais n'être pas complètement inutile. Je vais d'abord poser le problème maintenant. Cette fois-ci, j'entre dans le vif du problème. Alors le problème, bonheur humain et messianisme juif. Je ne vais pas simplement traiter, la question ne concerne pas simplement la question de l'universel et du singulier. On pourrait traiter cette question de l'universalité et de la singularité à l'intérieur des textes et de la vie juive par rapport à ce problème. On pourrait, et ce n'est pas exactement ce que je vais faire, on pourrait, d'autre part, étudier le problème universel et singulier en faisant une étude historique des influences et des interactions. Sont-ce les textes de la Torah qui ont inspiré de loin la philosophie grecque ou la philosophie grecque qui inspire à un certain moment certains textes? Ou bien, le Maharal de Prague est-il inspiré par la Renaissance ? Ou bien inspire-t-il la Renaissance ? Spinoza est-il seulement inspiré par Descartes, ou est-ce que ce n'est pas la philosophie juive avec Spinoza qui va inspirer toute la philosophie européenne? Ce sont des questions sérieuses, des questions historiques. Je ne les poserai pas vraiment, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions concernant cela. Autrement dit, je ne traiterai pas, je ne sais pas si la question essentielle est le problème des influences et des actions réciproques. Cette question existe, ce n'est pas exactement elle que je vais traiter. Je voudrais plutôt me consacrer au travail suivant. Voici la question que je traiterai. Peut-on, philosophiquement, justifier, éclairer, approfondir, consolider, épanouir le sentiment et le sens vif de l'espérance qu'on trouve dans le judaïsme? Est-ce qu'on peut philosophiquement le fonder, c'est-à-dire aller avant lui, sous lui et le fonder? Est-ce qu'on peut donc le justifier et le faire aller plus loin? Voilà ma question, voilà mon ambition. Est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà un deuxième aspect de la question, est-ce qu'on ne pourrait pas offrir justement une telle doctrine philosophique du bonheur ou de la joie, mais suscitée par nous, nous, les Juifs, est-ce qu'on ne pourrait pas offrir une telle doctrine philosophique à ceux d'entre nous qui ne sont pas croyants? Il existe des Juifs non-croyants. Vous savez que c'est ma doctrine, et c'est ici où j'appelle votre patience et ma modestie. Il existe quelques juifs non-croyants. Ils ne définissent pas le judaïsme, mais il existe quelques juifs non-croyants. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à eux, offrir une doctrine qui est une doctrine philosophique de la joie? Est-ce un hasard si la plus grande des doctrines philosophiques de la joie, la plus grande, à savoir celle de Spinoza, est-ce un hasard si elle est née sur le socle juif? Spinoza, on ne le sait plus, on ne le sait pas, est un philosophe juif. Est-ce un hasard si la doctrine philosophique la plus approfondie de la joie est celle de Spinoza? Et si ça n'est pas un hasard, est-ce que nous ne pouvons pas en tirer non seulement enseignement, mais également richesse, voie, direction, chemin? Étant bien entendu par ailleurs qu'il peut très bien y avoir enrichissement réciproque et action réciproque entre les consciences existentiellement croyantes et les consciences existentiellement juives et non croyantes. Il peut aussi y avoir enrichissement réciproque. En passant, je tenterai donc, ou plutôt, il y aura des éléments pour répondre à la question subsidiaire suivante. Mais nous qui sommes juifs, et qui en somme avons la Torah, qu'avons-nous besoin de chercher autre chose? Faut-il chercher autre chose? N'y a-t-il pas tout déjà dans la Torah? Est-ce qu'on ne peut pas simplement continuer à approfondir la lecture, l'interprétation, la pénétration des textes, pourquoi pas? Pourquoi proposer autre chose? Pourquoi proposer autre chose? Revient à la première question, peut-on fonder philosophiquement? Alors, dans un premier temps, j'étudierai, rapidement et de loin, bien entendu, dans un premier temps, j'étudierai, schématiquement, je schématiserai les contenus du messianisme juif. Ici, je vais entrer un petit peu dans le détail de cette simple esquisse, mais bien entendu, je vous renvoie à quelques textes que vous connaissez déjà. Non seulement les textes, au sens traditionnel du terme, les psaumes, les prophètes, non seulement ces textes que vous connaissez, mais aussi quelques commentateurs. Il faut lire de près Néer, bien entendu. Il faut lire un peu Lévinas, beaucoup Néer, un tout petit peu Rosenzweig, beaucoup Buber. Bref, il existe quand même une réflexion sur le messianisme. Et puis, nous qui sommes juifs et qui sommes solidement inscrits, installés dans l'histoire du peuple juif et dans le choix du judaïsme, nous sommes suffisamment armés pour lire, cela je vous le conseille vivement, ce grand livre du protestant, Joseph, je crois, Lotz. Lotz, histoire de la littérature hébraïque et juive, un ouvrage de 1000 pages environ, qui est très clair, qui est fondamental pour qui ne sait pas, et qui aide ceux qui savent à mieux savoir encore, et ensuite à voler de leurs propres ailes, bien entendu. On s'aperçoit à certains détours de phrases, bien sûr, que nous ne sommes pas en présence d'un homme juif, bien entendu, mais nous sommes en présence d'un érudit solide, sérieux et utile. Bon, voilà pour les textes. Qu'exprime donc maintenant je généraliser ? Maintenant, je généralise, je schématise, et m'appuyant sur tous ces textes, m'appuyant sur la lecture directe, ne riez pas, en français, les traductions de la Pléiade, en français hébreu, la traduction de Chouraki. Si vous ne parlez pas l'hébreu, mais si vous voulez lire en hébreu la Bible, il faut lire Chouraki, n'est-ce pas ? C'est tout à fait extraordinaire, ça ne remplace pas la langue hébraïque, mais nous sommes un petit peu, justement, démunis en diaspora. Alors, que disent les prophètes ? Ils insistent sur, et cela on le voit aussi bien affirmé par les textes bien entendu, par le début, ce qu'on a, Bereshit, mais on le voit également repris par Néer et repris par Boubert, le prophétisme et donc le messianisme insistent d'abord et s'appuient sur la réciprocité homme-Dieu, Dieu-homme. Le face-à-face dans des flashs, mais surtout la réciprocité du dialogue dans l'espace, espace local, espace universel, et puis dans le tout du temps. Alors, cette réciprocité, elle est à la fois manifestée, véhiculée, rendue possible, vous le savez, par, je cite tout simplement les textes, par l'esprit, Ruach, et la parole, Davar. Mais, pour le moment, je prends les termes ainsi, je prends les choses ainsi. Pour le moment, vous le voyez, je vais prendre les choses au premier degré, comme on dit, au premier degré. Alors, cette relation, cette réciprocité se manifeste d'abord comme un dialogue dans le temps. C'est un dialogue dans le temps, et la première forme de ce dialogue dans le temps, de ce que moi j'appellerais l'engagement, c'est l'alliance. L'alliance, le pacte, l'idée de pacte, l'idée d'alliance, d'alliance qui est à la fois, qui n'est pas un chèque en blanc, qui est un engagement qui engage le présent, la responsabilité, l'avenir, mais qui peut toujours être suspendu par Dieu, mais qu'il ne souhaite pas suspendre, qui est en fait suspendu parfois par les hérétiques et les impies dans le peuple juif, mais que le peuple juif ne veut pas suspendre en réalité, cette exigence montre, cette exigence est ce que je pourrais appeler la vie du pacte, montre qu'on est en présence effectivement d'un acte de conscience, conscience de Dieu, conscience des hommes, d'un acte, pas d'une chose. Et puis, le dialogue dans le temps se déploie aussi comme avènement historique, bien entendu, attente de la délivrance, tout ça est connu, et comme déploiement d'une dialectique des contraires, on n'insiste pas assez. La dialectique des contraires, je prends l'expression à Néer, c'est-à-dire à Hegel, peut-être n'est-ce pas une dialectique des contraires, c'est une dialectique que moi j'aimerais l'appeler une dialectique de la nuit et du jour, à savoir la dialectique de la catastrophe et de la délivrance. Quand on lit les prophètes, vous savez que la plupart de leurs textes, la plus grande partie de leur intervention est prophétie de destruction. Elle est annonce de catastrophe, présentée comme punition, mais elle est annonce de catastrophe. Eh bien, cette dialectique est le sentiment manifeste dans le peuple juif une certaine interprétation de l'histoire, et cette interprétation de l'histoire consiste à mettre en évidence ce fait que de la catastrophe, on peut passer à la renaissance, on peut passer à la délivrance, on peut passer à la montée vers Jérusalem. C'est-à-dire que les catastrophes ne sont jamais définitives, les catastrophes n'ont pas à être voulues, elles ne sont jamais voulues, mais elles sont fécondes. Mais elles ne sont pas voulues pour être fécondes, on n'est pas dans le christianisme. Elles sont fécondes malgré elles, parce qu'elles avertissent, en somme. Ensuite, Le dialogue est sacralisé, le dialogue est à la fois sacralisé et métaphorisé. Vous savez que partout dans les textes, non seulement dans la Kabbale, mais déjà dans tel ou tel prophète, et puis dans l'interprétation par Neher, par Tsigano, par tout le monde, et puis c'est dans les textes, c'est clair, il y a une métaphorisation conjugale de la relation Dieu-homme, Dieu-Israël. C'est une relation conjugale, c'est-à-dire une relation d'amour, une relation étroite, une relation mondaine, mais une relation humaine aussi. Il y a métaphorisation par la relation d'amour, mais en même temps, la relation d'amour est par ailleurs sacralisée, puisqu'elle devient symbole de la relation entre l'absolu et Dieu. Tout cela, naturellement, s'insère dans à la fois l'annonce et l'attente. L'annonce de la délivrance, c'est cela le messianisme, et puis l'attente de la délivrance. Il y a beaucoup de choses dont il faut se méfier, beaucoup de pages un peu trop complaisantes à l'égard de la diaspora chez Rosenzweig, qui n'avait pas encore l'idée et qui croit devoir combattre l'idée d'État. Au contraire, un Buber, par exemple, était plus conscient de l'importance de l'État. Mais indépendamment de ces pages de Rosenzweig, il y a quelques pages qu'on peut aisément trouver grâce à la table des matières de l'Étoile de la Rédemption. Il y a quelques pages intéressantes sur l'attente, justement, l'attente de l'événement. Cette attente est à la fois une attente de quelque chose de lointain qui va se produire, mais qui peut en même temps toujours se produire dans l'instant, qui peut toujours surgir, toujours à l'instant. Elle est à la fois, l'avènement futur sera à la fois le fruit d'un progrès des consciences, et puis à la fois l'événement radical, imprévisible, incalculable. Incalculable, si je dis cela, c'est parce que je songe à tous nos kabbalistes, à tous nos kabbalistes espagnols qui donnaient exactement les dates de l'arrivée du Messie. C'était, je ne sais pas, 1392, non, 1496, non, un peu plus tard, non, un petit peu avant. Non, on ne calcule pas cela, et d'autre part, on ne s'appuie pas sur... et ici je cite Rosenzweig, pas les journaux. On ne s'appuie pas sur un imam, c'est-à-dire il n'y a pas à chaque époque un homme particulier qui va sauver. C'est l'ensemble de l'humanité ou des juifs concernés qui opèrent un progrès intérieur à travers l'histoire et qui d'ailleurs en outre attendent un événement qui sera encore transcendant par rapport à cette opération progressante, si je puis dire. Ensuite, il y a un développement, ici je prends la classification de Neher, elle me paraît assez bonne, elle nous donne l'occasion de dire d'autres choses. Le dialogue se développe ensuite non plus seulement dans le temps, mais dans ce qu'il appelle la société, dans la société. Le dialogue homme-Dieu, c'est ça le messianisme, ça se développe dans la société. Et par exemple, on peut décrire le développement, le déploiement des conséquences, ce que j'appellerais les conséquences éthico-métaphysiques de l'Alliance. Alors, ces conséquences, c'est par exemple que... Alors, Neher le met bien en évidence, mais vous savez d'autre part que c'est vrai que c'est dans tous les textes. À savoir, première conséquence du dialogue, et c'est cela le messianisme, c'est à la fois la condition et l'accompagnement du mouvement messianique et de l'avènement, à savoir que les Juifs et le peuple juif seront serviteurs de Dieu. Ils doivent être serviteurs de Dieu. Ils doivent amour à Dieu, c'est un commandement, le commandement fondamental, mais ce commandement est en même temps le commandement de l'obéissance. Aimer Dieu, c'est le servir. Et c'est dans l'attitude qui consiste à servir Dieu, à l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, c'est-à-dire à le servir, c'est cette attitude qui préparera l'avènement de l'ère messianique. J'ai oublié de dire, mais nous le savons tous, qu'il s'agit d'une ère messianique. Ici, le messianisme ne consiste pas à attendre le Messie, même si les prophètes parlent du Messie, mais le Messie peut aussi bien être l'ensemble du peuple, ou bien un événement historique, ou bien la transmutation radicale des événements, et de l'histoire, et de l'individu, mais ce n'est pas un individu qui peut sauver l'humanité. Quoi qu'il en soit... D'une part, il n'y a pas de chef, d'autre part, il n'y a pas de messie, il n'y a pas de grand homme, mais cependant, tout individu juif doit être serviteur de Dieu. Ça, c'est une chose très importante, parce que seul un serviteur de Dieu peut être porteur et défenseur de la Torah, c'est-à-dire montrer la voie. Sénère, je suis prêt à contester la fidélité de la traduction, mais c'est Ner qui traduit ainsi le mot Torah, et sa traduction me plaît. Torah, c'est pas seulement voie, mais c'est, il cite une racine, on pourra en discuter tout à l'heure, montrer la voie. Pourquoi est-ce que j'insiste là? Alors là, c'est une faiblesse personnelle. À la fin de l'éthique, Éthique 5, dernier théorème, je crois que c'est 42. Éthique 5, 42, Scoli, tout à fait à la fin. Spinoza conclut son œuvre en disant ceci. Certes, la voie que j'indique est difficile et rocailleuse, mais elle existe. Et on peut la trouver si. La voie que j'indique. J'avais toujours fait attention à l'idée de chemin, d'itinéraire, de mouvement, itinéraire et cheminant chez Spinoza. Mais je n'avais pas assez remarqué le mot « la voie que j'indique ». Puis, tout à fait par hasard, parce que j'avais à vous parler, je découvre que dans la racine de Torah, peut-être on peut trouver le mot « j'indique ». Je relis Spinoza et je me dis « mais c'est un marane ». Ben évidemment, excommunié. Mais là, on verra plus tard. Tout le monde ne pouvait pas toujours, tout de suite, tout savoir sur le combat des Juifs pour le peuple juif. Il ne suffit pas d'être serviteur de Dieu, il faut déployer aussi, je prends les termes tels qu'ils sont partout, dans toutes les traductions, n'est-ce pas? Il faut que se déploient la sainteté et la justice. Autrement dit, le messianisme, c'est cela que nous commençons à sentir, le messianisme n'est pas la simple affirmation, oui, simpliste, élémentaire, schématique, qui consiste à dire « tout va mal, mais attendez, vous verrez, tout ira bien ». C'est pas ça du tout le messianisme, « tout ira bien un jour », c'est pas ça du tout. C'est la description de l'engagement réciproque et de ses modalités, alliance, histoire, service, disons, sacralisation et lutte pour la justice. Ce sont toutes ces modalités du dialogue avec l'absolu, ou, moi j'aimerais presque dire, toutes ces modalités de la mise en œuvre de l'absolu, qui sont le chemin messianique. D'ailleurs, je lis à la fin de cet ouvrage, tout de même intéressant, c'est quand même un grand poète philosophe, Rosenzweig, qui écrit, je ne sais pas, 1000 pages sur la rédemption, création, révélation, rédemption. Et puis, tout à fait à la fin, il conclut, c'est la dernière page, puis un demi-paragraphe, et il arrive au résultat. Le résultat des 1000 pages d'études du messianisme. Et il dit, eh bien, c'est trois choses toutes simples. Pratiquer la justice, aimer tendrement, marcher avec Dieu. Puis il s'étonne même quoi? Simplement, pratiquer la justice et aimer tendrement? Mais oui, tout cela, mais vu d'une certaine façon, dit-il. Alors, cela veut dire que le messianisme ne peut pas séparer le but du cheminement. D'autre part, le messianisme s'appuie aussi, on le dit pas trop, nos auteurs ne le disent pas, nos auteurs, c'est-à-dire par exemple Neher ou d'autres, ou Rosenzweig, ils ne disent pas assez qu'il y a naturellement dans la conscience juive, à propos de cet avènement d'une ère nouvelle, il y a une certitude. Certitude absolument radicale. Le messianisme n'est pas la facilité, il est le travail et la responsabilité, mais en même temps, il s'accompagne d'une certitude absolue. Les temps messianiques viendront. Mais cette certitude, puisqu'elle est accompagnée d'activités, de responsabilités et d'œuvre, en somme, n'est pas une certitude aveugle. Mais à un certain moment, quand même, c'est une certitude qui s'appuie sur une foi, bien sûr, sur une croyance, sur une confiance métaphysico-ontologique.